cette invitation sur un sujet qui me tient un petit peu à cœur. Voilà. Dans le moment, tout à l'heure, quelqu'un est venu me demander comment ça se fait qu'on n'a pas tel film, on a tel film. Je veux vraiment insister, si vous voulez savoir, je ne prétends pas tout savoir, mais si vous voulez savoir au moins pourquoi j'ai tel film et pas tel film, combien de temps ça dure, la part que je donne, les rapports, comme disait monsieur, avec les distributeurs, c'est vraiment le moment, quoi. J'essaie doucement avec Internet parce que je m'emporte vite, c'est tout. Voilà. Je vais donc parler des besoins, quelque part, du cinéma, de la télé par le cinéma, à travers le financement, le média proprement dit, et puis ça peut être aussi, quelque part, une source d'inspiration. Donc, on pourrait faire un peu l'historique. Tout a commencé déjà avec l'arrivée de la télé et puis une relation très conflictuelle, très complexe du cinéma qui a vu là une très forte concurrence au début et qui reste toujours quelque part pour certains. On peut citer Godard qui avait dit « La télé, la différence entre la télé et le cinéma, c'est que la télé, on la regarde vers le bas, tandis que le cinéma, on le regarde vers le haut. » Et ça, il n'y a pas 50 ans. Donc, il a fallu quelque part pour protéger le cinéma beaucoup de protection. Et on a de la chance quelque part en France d'avoir un cinéma qui a perduré pendant ces 30 dernières années, à l'instar des autres cinémas européens, parce que le cinéma en France c'est encore considéré comme un art, hein, à la différence à l'extrême des États-Unis où c'est absolument pas un art. Et on pourrait citer plein d'anecdotes justement, et où c'est plutôt un commerce. Donc voilà. Donc il est protégé avec tout un tas de dispositifs quant à la diffusion après des films à la télévision. Et il est protégé grâce à son financement et aux aides pour la réalisation, pour la production de films. Il est aidé via des aides directes des chaînes avec des minimums qu'ils doivent assurer pour la production de création française. Il est assuré aussi grâce à la production directe de la chaîne, comme vous disiez, des chaînes directement comme Canal+, comme Arte, et puis il est aussi aidé par d'autres choses, c'est-à-dire les filiales que même les chaînes ont pour produire des films. C'est-à-dire par exemple pour TFM, qui est une maison de distribution qui est la filiale de TF1, SND, M6, Studio Canal, qui est productrice et distributrice pour Canal+. Bon voilà, il y a vraiment beaucoup de filiales, outre les aides via le CNC. On peut dire que 40% des diffusions françaises, non, 40% de... Il y a beaucoup de créations de... Ils ont à peu près ils sont obligés de produire 40% obligés de diffuser 40% de production française. Ça aussi, c'est une aide. C'est-à-dire qu'évidemment, ils redonnent de l'argent avec la diffusion d'un film sur leur chaîne. Et voilà. Ils sont obligés aussi, ils ont des impératifs, l'obligation de reverser 3% de leur chiffre d'affaires annuel pour la création des productions françaises. Ça, c'était le financement. On peut aussi parler maintenant de la promotion. Je pense que la télévision, c'est aussi évidemment un média dont le cinéma se sert allègrement pour en faire sa propre promotion à travers des émissions évidemment de cinéma, à travers les stars qui sont invitées pour toujours la pub. C'est de la publicité quelque part quand même, évidemment. Les stars maintenant sont, les acteurs sont invités au journal de TF1, Antenne 2 le soir, et c'est quand même quelque part, c'est toujours la même chose, on a encore quelque part la chance, le cinéma en France est sur un fil du rasoir, bénéficie du double statut de commerce et d'art, c'est pour ça qu'on peut encore quelque part en parler dans des émissions d'information. Voilà, il peut aussi être... La télévision peut aussi aider le cinéma ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une source d'idées. Parce qu'en ces temps maudits où les scénarios se font assez rares, où on privilégie allègrement les remakes, et je pense que le cinéma, aussi bien en France qu'aux États-Unis, a pas mal puisé dans les séries pour pouvoir qu'ils ont adapté pour refaire des films. On peut citer Belphégor, on peut citer Vidocq, on peut citer qu'est-ce qu'il y a eu, les Brigades du Tigre par exemple, et beaucoup d'autres pour la France, ou alors des films comme Sex and the City qui a pas mal cartonné, ou alors Le Fugitif, plein de films donc, Starsky Hutch, qui sont à l'origine des séries à la télévision et dont le cinéma se sert pour adapter. Voilà. Je veux dire aussi que les réalisateurs eux-mêmes se servent pas mal de la télévision pour assurer leur pérennité, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui font de la publicité et qui ont commencé aussi par ça. Chatiguet qui a commencé quand même par faire de la publicité. Et Jean Becker, qu'on a fait aussi pas mal, qui n'a pas eu besoin de ça, mais qui a pas mal fait de publicité aussi. Donc quelque part, on peut aussi dire que les acteurs aussi se servent de la télévision quand ils ont plus tellement de rôles, peut-être qui les intéressent au cinéma, comme Thornton, des grands acteurs qui font, ou Depardieu, qui font quand même des bons téléfilms. Hein. Donc voilà. Et puis inversement, des grandes stars qui sont à l'origine des acteurs du petit écran. George Clooney, qui est un des acteurs les mieux payés au monde, vient quand même de séries. Voilà. Le numérique, j'attends un petit peu vos questions pour en parler. Et puis, je voudrais finir comme j'ai commencé pour dire que le plus grand danger, on avait pensé que c'était la télé, mais à mon avis, à l'heure actuelle, c'est plutôt Internet. Parce que là, aussi bien la télévision que le DVD à son époque, il y a eu comme je disais à monsieur, il y a eu des lois, des protections, des choses, on pouvait interdire les sorties. Tandis que Internet, c'est pas. Il y a des choses qui se mettent en place, qui tentent à nous protéger, nous exploitants, mais c'est très dur, hein, parce que ça se fait via un réseau mondial. Donc la grosse bataille actuelle pour sauver le cinéma, pour moi, c'est vraiment essayer de faire quelque chose et d'obliger les fournisseurs d'accès à Internet à bloquer un peu ça. Voilà.
Bien, merci. Bernard va
bien.
Compléter.
De toute façon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Il a tout dit. Disons que le cinéma et la télévision, le cinéma, il a quand même bien besoin de la télévision, aux deux points de vue qu'il a soulignés. D'une part, parce que ça fait de la promotion, puis aussi, si vous comptez le nombre d'heures où on passe des films sur toutes les chaînes de télé qu'on peut recevoir, c'est absolument énorme, c'est nettement la majorité. Et en deuxième position, il y a les séries de toute nationalité. Donc ça fait quand même un débouché, parce que chaque fois ils vendent. Et ils payent quand même pas tout à fait la même chose que ce que paye M. Priou, par exemple, quand il fait venir un film chez lui. On peut pas. Ou le club cinéma, quand on veut avoir un film bien précis. On téléphone, on nous dit un prix, on discute un peu, mais si jamais il y a une chaîne de télévision qui intervient, on peut pas lutter du tout. Hein. Je me souviens de l'époque où on faisait un hommage à Gérard Philippe, incarnation des héros littéraires. On avait trouvé une très belle copie de la Chartreuse de Parme, qui avait été restauré, bon, ça allait pas trop mal, il a loué cher, à l'époque c'était en francs, évidemment ça ne représente plus grand chose maintenant, mais enfin bon, il a loué 1500 francs pour une semaine, et puis tout d'un coup, un petit coup de fil, et Fertrois avait décidé de retenir ça pour son cinéma de minuit, et eux, ils alignaient 53 millions de centimes. Donc forcément, on n'a pas passé la Chartreuse de Paris. On avait le réalisateur qui était invité à Vichy, on lui a passé le diable au corps, c'était M. Autant Lara, mais il était bien content de le revoir, ce vieux film, mais bon, la Chartreuse de Parme, on ne l'a pas eu, parce qu'elle était dans un coffre, dans une chaîne de télé. Donc, vous voyez, ça joue dans les deux sens. D'une part, c'est un débouché, ça peut aussi gêner certaines diffusions en salle, parce que on ne peut pas lutter contre, contre ça, bien entendu. Mais ça sert à faire connaître le cinéma. Bon, de ce côté-là, on peut pas, on est obligé de s'incliner. La force de la télévision, c'est quand même de faire connaître. Grâce à la télévision, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui ont pu s'exprimer. Comme le disait monsieur, il y a ceux qui ont fait leurs premières armes à la télé, avec des téléfilms, avec des séries, des choses comme ça, que ce soit des acteurs ou que ce soit des réalisateurs. Donc c'est une pépinière, quelque part. Seulement, cela n'empêche pas, bien entendu, que la télévision et le cinéma, ils sont en osmose, mais c'est une osmose où ils vivent en symbiose tous les deux, mais en dévorant l'autre, exactement comme dans le monde animal, hein, ou dans le monde végétal. C'est-à-dire que la télévision, elle se sert du cinéma. Mais le cinéma essaye de se servir de la télévision. Il parlait des promotions. Nous sommes inondés de promotions, parce qu'il y a tout le temps une petite émission sur le cinéma. On voit même, comme il l'a souligné, des gens qui débordent, c'est-à-dire ils vont dans des émissions d'information sur des plateaux télévisés. Ils sont reçus par Drucker ou ils sont reçus carrément au journal télévisé. Oui, mais, enfin nous, c'est notre point de vue au Club Cinéma, oui. Mais il n'y a aucune émission en fait sur le cinéma. Parce que il n'y a aucune critique. Jamais. Tous les films dont on parle, ils sont forcément bien. Ils n'en disent que du bien. C'est à se demander d'ailleurs l'impact que ça peut avoir sur les gens, l'effet d'entraînement, parce que ça fait quand même un peu réfléchir certains de n'avoir aucune critique. Il n'y a pas l'équivalent, par exemple, bon, je vais prendre un truc tout bête, mais une émission comme Le Masque et la Plume, c'est l'honneur de la radio. Mais à la télévision, il n'y a pas l'équivalent.
Pourtant, en même temps, la chaîne, elle produit, donc elle ne va pas descendre.
Oui,
évidemment.
Borcade, de temps en temps, là, ou Cadre Bord, je crois, c'est sur Canal Plus ou Canal Sat. Et ce sont des revues de
Ah oui, mais moi, je ne reçois pas ça. Je suis sur le faisceau de la Défense Nationale, je ne sais pas quoi. Alors moi, j'ai juste les chaînes toutes bêtes de base, tu vois. Alors,
là, il y a des bonnes critiques.
Mais parce que Canal cultive cette image de « je suis la chaîne du cinéma ».
Voilà. Oui, voilà.
Alors, ils font des efforts un peu plus. Mais M6 aussi, ils essayent bien. Mais enfin, c'est assez ridicule parce que les critiques qui sont avancées, c'est pas vraiment, ils décortiquent pas le film. Ils se contentent de dire « oh, c'est un peu violent » ou alors « c'est un peu facile, bon, les décors sont pas... » Mais évidemment, comme me faisait remarquer en aparté M. Priou, dans la mesure où les chaînes souvent sont les productrices ou les coproductrices, elles ne veulent pas mettre à la fiche une émission où on risquerait de critiquer ce qu'elles fabriquent. Donc c'est gênant, effectivement. Ça, c'est quand même... Et alors, donc sur cette symbiose de fait qu'il y a entre les deux, je crois que maintenant on est tellement engagé là-dedans que la télévision sans le cinéma, ça serait une catastrophe. Parce qu'en fait, ça leur bouche un tas de niches horaires. Ils ont besoin qu'il y ait une production continue de films pour alimenter les cases horaires qu'elles ont dans leur grille. Donc elles ne peuvent pas s'en passer. Et c'est aussi pour ça que même si elles traînent les pieds, même si de temps en temps il y a un PDG qui vient pleurer à l'antenne en disant « oh là là, on donne beaucoup d'argent, on est forcé », mais en fait, ils savent très bien que s'ils ne financent pas la production, ils en seront les victimes, parce qu'ils n'auront pas assez de choses à mettre dans les... Regardez ce qui se passe avec le téléphone mobile, Orange essaye de faire un tas de trucs, etc., parce que il faut du contenu. Ça ne suffit pas de faire des prouesses technologiques, mais s'il n'y a pas de contenu derrière, ben les gens n'y vont pas, les gens s'en servent pas, et du coup les publicitaires n'acceptent plus de payer n'importe quel prix pour avoir le logo de leur marque, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas assez de gens qui regardent. Comprenez, s'il n'y a pas de contenu qui attire les gens, les gens ne regardent pas, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas augmenter le prix de vos écrans publicitaires. Donc pour la chaîne, c'est pas très intéressant. Vous voyez, et là, les prévisions, à première vue, ils n'ont pas l'air d'être les rois de la prévision, parce que j'ai observé, comme vous tous, TF1, M6, qui attendaient la manne publicitaire, puisque le service public, et ça ne marche pas du tout comme prévu. C'est-à-dire tous les experts de communication, en communication, se sont trompés.
Comme les économistes.
Ah ben ça, les économistes.
Alors, il est question d'autoriser,
plus grave.
Il est question d'autoriser deux coupures pub pendant les films.
Oui, il faut qu'ils essayent de se rattraper.
Oui, ce qui arrange évidemment les exploitants de cinéma en peur. Ce n'est pas une bonne occasion pour voir un film non coupé, d'aller en salle. Hein.
Ah ben oui, parce que c'est... Il y a des films... enfin, je ne veux pas jouer les puristes, mais enfin... parce qu'au club cinéma, on passe quand même des films grand public. Hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain type de film. C'est vraiment l'assassinat pur et simple de mettre une coupure dans le film.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces films, maintenant, ils sont tellement produits et produits par les chaînes que pendant le montage du film, c'est fait de telle manière qu'il y a, en anglais on dit un cliffhanger, une montée de pression à un moment précis, c'est que pour justement la pub, trois quarts d'heure environ après le début du film, il faut qu'il y ait quelque chose qui retienne l'attention, et poum, la pub. Et dès le montage du film, dès la création du film, c'est prévu, on anticipe la coupure publicitaire qu'il va y avoir au milieu du film.
Donc, c'est le script en tient compte.
Pas le script, mais disons plutôt la façon dont c'est filmé et le montage.
Le montage.
Voilà. D'autre part, ce que je veux dire aussi, c'est qu'un film, la plupart des films sont conçus pour passer sur TF1 à 20h30 le dimanche soir, et donc ils doivent répondre. Voilà. Et donc ils doivent être le plus fédérateur possible. Un peu de sexe, mais pas trop. Un peu de violence, mais pas trop. Et donc c'est pour ça que la plupart des films se ressemblent.
Non, les enfants ne peuvent pas regarder.
Un peu d'humour, voilà. On arrive à des films qui se ressemblent de plus en plus.
Voilà, c'est formaté, quoi.
Ça va plus loin aux États-Unis, mais non, c'est pas chose. Ouais.
Ben nous ne sommes pas aux États-Unis.
C'est un air encore.
Et d'ailleurs, la production française arrive quand même à s'en sortir. Avec toutes les aides dont vous avez parlé, c'est peut-être aussi pour ça qu'en Europe, nous restons un des derniers grands pays du cinéma. Parce que l'Italie, ça s'est effondré. L'Angleterre, ça s'est effondré. Alors, il y a un film intéressant de temps en temps. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. L'Espagne, bon, elle a un petit peu mieux remonté que les Italiens. Hein. L'Allemagne, il y a des coups d'éclat. Et puis maintenant, avec Berlin qui commence à prendre la berlinade qui s'ouvre aujourd'hui, qui commence à prendre de l'importance, peut-être que ça va relancer un peu. Mais pour le moment, ça reste des exceptions. C'est un film de temps en temps. Tandis que les Français, ils produisent quand même entre 140 et 150 films par an.
Pendant un moment, on avait le marché du film étranger aux États-Unis, c'était la France qui détenait la plus grosse part, 1%.
Oui, mais aux États-Unis, 1%, c'est lourd.
La tribune voilà. Du 9 janvier, un record pour les films français à l'étranger. Hein?
Oui, il y a messagement les films français à l'étranger.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas forcément en langue française. Il y a Besson qui fait beaucoup de films en langue anglaise et qui sont quand même considérés comme des films français. Le Transporteur, maintenant, il est fait, le premier était en langue française, les deux et trois sont en langue anglaise. Il a fait un film qui cartonne aux États-Unis en ce moment, c'est Taken. C'est un film, je pense, en langue anglaise aussi.
Oui.
Et donc, c'est une production française. Mais c'est un film qui est formaté américain.
Ils disent ici, flop en France avec moins d'un million d'entrées, le Babylone AD de Mathieu Kassovitz a ainsi été le film français le plus vu à l'étranger, avec 10 millions de spectateurs. Donc ça n'a pas marché ici, ça fait un succès à l'étranger. Bon, excuse-moi, je t'en réponds.
Non, mais je pas... Non, moi j'ai pas grand-chose à... À ajouter, je pense que de toute façon, comme je disais, la télévision ne va pas se passer du cinéma, mais maintenant le cinéma peut plus se passer de la télévision, à la fois à cause de l'argent que ça représente, dans le financement, dans le montage financier qui précède le premier tour de manivelle, et puis pour la diffusion, parce que évidemment quand il y a un film, la télé paye un certain prix pour diffuser un film, mais quand elle diffuse un film, si c'est une soirée moyenne, il y a 3 millions, 4 millions de personnes qui regardent d'un coup. Alors évidemment, pour pour un distributeur, pour un réalisateur, pour les acteurs qui ont tourné là-dedans, c'est quelque chose d'énorme, parce qu'avant c'était impossible. Carrément, c'était même pas que on pouvait s'en rapprocher ou non, c'était pas possible du tout. Tandis que là, instantanément, vous avez 3, 4, des fois 5 millions de personnes. Quand il y a un type très célèbre qui meurt, comme Berry ou De Funès, on repasse un de leurs films, paf, là, il y a 6 millions de personnes devant le petit écran. Oui. Et alors, en même temps.
Il y avait encore quelques années, c'est la grande vadrouille à voir, c'était le carton. Un
oui,
carton absolu.
Ça marchait toujours. Il m'a même préparé des notes. Il y a une collaboration entre le club cinéma et les palaces. Hein. La politique de coproduction révèle en outre bien des surprises. La chaîne, en cas de trop grand succès en salle, n'est même pas assurée d'avoir les moyens d'acheter les droits de la deuxième diffusion à la télévision. Cela a été le cas de France 3 pour Les Visiteurs. Ah oui, parce qu'il avait fait un gros carton. Hein. Il a bien marché. Donc, le coproducteur d'un film à succès n'est pas systématiquement coproducteur du second. France 2 Cinéma a fait le succès de La Vérité si je mens, mais c'est TF1 qui a pris les droits, qui a pris le relais pour le deuxième film du même nom, La Vérité si je mens 2. C'est plus France 2, c'est TF1 qui a produit.
Ou alors il y a des films qui sont des chaînes coproduisent, et après ils n'ont même pas les moyens, tellement le film a marché, de pouvoir assurer même la première diffusion.
C'est-à-dire ils sont financiers, mais ils ne sont pas forcément diffuseurs, parce que évidemment ceux qui sont du côté cinéma, ils font monter les prix en fonction du nombre de spectateurs.
Le producteur n'est pas forcément l'ayant droit. Y a la chaîne du cinéma, c'est vraiment le producteur, le distributeur, et c'est le distributeur qui a les droits après de diffusion. Et distributeur, c'est pas forcément. Il y a tellement de chaînes il y a des films français qui sont coproduits par 3 ou 4 chaînes. Et après, donc celui qui a mis le plus, c'est pas forcément celui après qui a les droits pour qui a racheté les droits pour. D'autant plus que des droits au bout de 5 ans, ça se perd, ce genre de choses. Donc.
Oui, parce que le producteur d'un film, lui, il paye pour faire le film. Bon, il paye tout le monde. Mais après, la plupart du temps, ça lui échappe. C'est-à-dire il vend les droits de distribution à quelqu'un qui s'appelle donc le distributeur. Et c'est le distributeur après qui dit vous me donnez combien si je vous le loue pendant.
Pendant des locations.
Ah ben oui, enfin il vous fait payer.
Le droit de passage. Hein.
Il vous fait
je paye
bien,
aucune.
Moi.
C'est justement ça aussi, je voudrais. si vous avez des questions tout à l'heure, enfin, ça sera le moment. Moi je ne loue rien.
Et nous on dit plus communément qu'on loue un film, enfin c'est pas le terme juridique.
Ça s'appelle une location, mais moi j'ai pas de. Si je fais zéro entrée, je donnerais zéro.
Zéro distributeur.
Zéro distributeur.
Un droit sur l'entrée.
Comment ?
Un droit sur l'entrée.
Oui.
Ah bah
comme
oui.
Je disais, 50%. 50% du prix du ticket, de ce que vous donnez, va directement au distributeur. Et petit à petit, c'est des marchandages pour que je garde un film, parce qu'il fait de moins en moins d'entrées, lui il va baisser son pourcentage.
Mais vous aurez moins de spectateurs.
Voilà.
Le distributeur, c'est l'intermédiaire. Il y a le producteur, la compagnie.
C'est celui qui produit. Le producteur, c'est celui qui a donné l'argent pour faire le film.
Voilà.
Et après, il a une part sur le pourcentage que je donne au distributeur. Mais l'ayant droit, c'est le distributeur.
Parce que le distributeur, il a acheté le droit de distribuer. C'est lui qui devient le vrai patron, après.
Il devient le propriétaire du film, en quelque sorte.
Non, momentanément, c'est temporaire.
Il
est l'ayant droit. Et après, quand il n'y a plus personne, ça retombe entre les mains de la maison de production. Et après, quand tout le monde est mort, que plus personne n'a acheté, enfin veut payer pour les droits, vous téléphonez au CNC, on vous dit « Ah, il n'y a plus personne. » Alors, vous vous dites « Tiens, je vais avoir le film gratos. » Pas du tout. Parce qu'il y a des ayants droits moraux. Alors, tant qu'il y a des enfants du réalisateur ou la veuve ou des enfants du scénariste, eh ben ils sont ayant droit moraux et ils peuvent s'opposer à la location du film.
Ou alors il y a des.
Il faut leur verser un petit quelque chose, bien sûr.
Ou il y a des films qui ne sont plus distribués, il y avait quelques années. Oui, Orange Mécanique, il y a des droits. C'est la famille de Kubrick qui était déjà très exigeant. et la famille de Kubrick a bien fait la continuité de sa politique, c'est-à-dire que le film Orange Mécanique, il est distribué, mais il est bloqué, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, il appartient, les droits, ils ont bloqué, on ne peut pas l'avoir. Mais il y a aussi des films que je ne peux pas avoir parce que les droits de distribution ont été perdus et donc on ne peut plus l'avoir. C'est-à-dire, c'est comme un éditeur qui perd les droits pour un, mais un film, un livre, c'est plus possible de l'acheter parce qu'il n'est plus édité. Mais là, c'est pareil, un film, on ne peut pas l'avoir. J'ai essayé à un moment d'avoir Apocalypse Now, et pourtant, ça a été une palme d'or, et il n'y avait plus personne ne voulait le distribuer.
Donc il est plus...
Pendant un moment, je ne sais pas s'il a été...
Il est plus diffusé.
Alors, pendant un moment, il n'était plus, je ne pouvais pas l'avoir.
Non. Dans ces cas-là, il faut téléphoner au club cinéma du Chine. Et des fois, ben, ça ne marche pas à tous les coups, mais des fois, parce que nous, comme on est une association, on peut faire ce qu'on appelle du cinéma non commercial.
Ouais.
On a accès à certains films qui sont stockés, par exemple, aux archives du Chine. Je me souviens, quand on avait fait un hommage à Sacha Guitry, on avait voulu programmer le Napoléon de Sacha Guitry. On avait le même problème que vous venez d'évoquer. Il n'y avait plus de distributeur. Plus du tout. Alors, il y avait une ayant droit moral encore, c'est-à-dire, il y avait les enfants de la dernière femme de Sacha Guitry, qui sont toujours vivants et qui ont des droits. Alors, on leur a écrit gentiment, ils nous ont dit, mais bien sûr, ça nous fera plaisir, au contraire, gratuitement, je vous donne l'autorisation. C'est content, sauf que la copie, il fallait en trouver une. Alors heureusement, les archives du film avaient restauré une copie et on a pu diffuser à Vichy une copie neuve, prêtée gracieusement par les archives du film. Et là, on a payé que les frais de port. Ça a été une des plus belles opérations qu'on a faites. Parce que ça nous est arrivé aussi d'avoir des cas presque similaires, mais là, il fallait payer des droits de sortie, il fallait payer le port, et il fallait donner en plus un petit quelque chose à la personne qui avait joué les intermédiaires pour nous permettre d'avoir le film. Donc ça finissait par faire un film très cher.
Je veux savoir aussi, c'est que il y a un minimum garanti. Si je passe un film qu'une fois, le distributeur, donc l'ayant droit, quel que soit il va me demander un minimum garanti. Comme lui, il est rémunéré, au pourcentage de 50% des entrées, des recettes, si je passe ce film qu'une fois, s'il y a deux clients, lui, il va à 8 euros, il va toucher 8 euros. Et lui, il a des frais, c'est-à-dire que sa copie, elle est stockée dans un endroit où il paye une location pour l'emplacement, il paye un droit de garde, il y a une gestion aussi pour sortir le film, il paye aussi pour leur re-rentrée, donc il y a de la gestion, et lui, c'est, voilà, et donc c'est pour ça qu'il va me demander par exemple un minimum garanti de 200 euros, c'est-à-dire qu'au-delà de 200, si je fais moins d'un certain nombre de clients, et ben de toute façon, je lui donnerai les 200 euros, ce qui lui paiera la gestion du stock.
Mais lui, ça sera à prendre sur sa part exploitant.
De toute façon.
Donc ça va baisser la part.
De toute façon, si je fais deux clients, je
lui paiera quand même 200 euros.
Ouais. C'est pour ça que des fois, j'insiste sur le fait, si vous ne m'amenez pas moins de 120 personnes, moi, je perds de l'argent. Voilà.
Donc c'est le cas pour le club cinéma vis-à-vis de...
Non.
Ah non, ça c'est un autre accord. C'est un autre accord. C'est quand on fait des trucs ponctuels, ça, qu'il faut combler la différence.
Par exemple, Brésil.
Oui, par exemple, Brésil. Par exemple, il y a des ONG qui nous ont demandé d'organiser aussi une soirée au mois de juin sur un film qui n'est pas encore sorti. C'est pour ça que ça a dû rien vous dire, le titre, c'est Nulle part terre promise, de Finkiel, qui va sortir là au mois d'avril. Et ils nous ont demandé de leur faire une soirée début juin. Bon, alors là c'est pareil, une seule projection, parce qu'ils ont quelqu'un qui, en montant de Cannes, parce qu'il est au jury du prix œcuménique, je sais pas quoi, il va s'arrêter là, il présentera le film, il animera le débat. Mais comme il reste qu'un soir, bon, ben, ça sera une projection. Donc,
Et le 4 juin.
Oui. Alors, comme avec ces mêmes ONG l'année dernière, on avait fait un truc sur les droits de l'homme en Chine, et qui nous avait ramené quand même plus de 120 personnes, on s'est dit, on peut peut-être tenter le coup. Mais c'est jamais sûr. C'est pour ça que nous, on aime bien, quand on peut, sur des trucs ponctuels, on aime bien faire des trucs en association, avec plusieurs associations, parce que quand il y a un déficit, vous payez qu'un tiers ou un quart du déficit.
On se le partage.
Et ça permet de faire quand même un gros chèque à monsieur. Voilà.
Savoir aussi que je paye d'énormes. Les frais de port sont quand même pas mal aussi pour une copie. Une copie, un film, c'est quand même à peu près 25-30 kilos. Un film d'une heure 40, 2 heures, c'est 25-30 kilos. Donc il y a des frais de port qui sont assez importants, aussi bien pour l'aller, pour le retour, d'autant plus que la plupart du temps, ce sont des films qui sont moins distribués, donc la copie, elle n'est pas à Lyon, elle est à Paris, donc c'est d'autant plus cher. Je paye l'aller et le retour. Et puis les frais de montage et démontage, les personnes qui bossent, il faut le monter, le film, il arrive démonté. Donc voilà, donc au-delà d'un certain nombre de personnes, moi je perds de l'argent. Et je ne suis pas, même si j'aime bien me représenter comme le grand méchant loup qui cherche qu'à faire de l'argent. Mais en fait, c'est un peu ça. Moi, je suis là pour faire de l'argent. Et donc, il faut un juste milieu entre plaire au maximum de Vichy soi, c'est-à-dire avoir une programmation des films pop-corn quelque part, parce que c'est ce qui fait vie, c'est ce qui permet de payer les charges, le loyer, le personnel. Voilà. Et puis, d'un autre côté, essayer d'avoir quelques films quand même pour satisfaire tout le monde, des films non pop-corn.
Vous avez beaucoup de personnel.
Comment ?
Vous avez beaucoup de personnel.
13-14 personnes quand même.
Combien ?
13-14.
Ah ouais.
3 projectionnistes.
Ah mais il y en a qui sont cachés, on les voit pas.
Ouais. 6 ou 7 personnes d'accueil, 3 femmes de ménage, une comptable.
Tout ça personnel attaché à les séparations, un contrat à durée déterminée.
Oui.
D'accord, du personnel donc.
Et les frais de port, vous voyez, heureusement que M. Priou a un vidéoprojecteur dans une de ces salles qui permet des fois de se dépanner en passant un disque. Ah, vous venez de recevoir. Bon.
2 mois.
Eh bien, c'est très bien.
Et
parce que l'année dernière, il y avait Regard d'Afrique, là, on diffusait des films africains. Et il y en avait un qu'on voulait absolument passer, mais pas de distributeur en France. Pas de distributeur en Europe. La seule copie exploitable est coincée à Ouagadougou. Bon. Ah, on téléphone, bon, parce que c'était eux qui avaient vu le film. Bon, alors, ils avaient gardé la copie, c'était normal. Et personne n'était intéressé en Europe pour distribuer ce film. Personne n'avait acheté les droits de distribution. Alors, on leur téléphone, ils disent pas de problème, bon, on vous l'envoie, ils nous font un tout petit prix de location, je crois que ça devait être 150 euros. Mais il aurait tourné sur Moulin, Vichy, bon. Et puis après, quand on s'est enseigné pour le faire venir, bon, parce qu'il faut le faire venir, c'est ça la copie. Et comme c'est lourd, eh ben, c'était 4 fois plus cher le transport que la location du film. Donc, on a annoncé et on s'est dépanné parce qu'ils nous ont envoyé un DVD. Ça coûte pas cher à expédier. Et on a passé le DVD qui s'est coincé. Et on a été obligé de faire une deuxième séance où on a réussi à le repasser, mais alors là, en entier, sans qu'il coince. Et donc les gens qui ont eu de la patience, ils ont vu la fin du coup d'État dans un pays africain. Voilà.
Donc passer un film sur un vidéoprojecteur par rapport au point de vue de la qualité de...
C'est une grosse perte.
Il y a
des pixels là. C'est un vidéoprojecteur, c'est pas de la haute définition, c'est pas encore du... C'est une projection qui n'est pas encore, c'est pas du numérique. Hein. Même si la source est numérique, c'est pas une projection, ce qu'on appelle numérique. Hein. Les projecteurs 4K et 2K ou 4K qui arrivent, la projection est énorme, c'est génial.
Mais bon,
On voit la différence en qualité. Honnêtement, je ne croyais pas dans ma vie avoir pouvoir dire une fois, ça fait 20 ans que je suis dans le cinéma, et je pouvais pas, jamais imaginé pouvoir dire un jour, comme je pense un peu comme c'est pour les amateurs de photos. Je ne suis pas un amateur de photos, mais je pense qu'on fait vraiment de la bonne qualité maintenant en photo numérique. Et je pensais jamais dans ma vie pouvoir dire un jour, c'est une projection numérique est meilleure qu'une projection pellicule. Et ça y est, on y est arrivé. Meilleur, je sais pas, mais largement aussi bien. C'est différent. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est une grosse bagarre, c'est s'arranger entre le CNC, qui faut qu'il aide, les distributeurs, il faut qu'ils aident aussi, parce qu'ils vont faire des économies sur les copies, le transport, la fabrication des copies, qui coûte très cher, pellicule, puis il n'y a plus d'usure, et puis les cinémas. Donc on cherche à savoir qui va payer, comment ça va se passer, le préfinancement et tout ça. Parce qu'un projecteur numérique, un projecteur numérique, c'est 10 fois plus cher qu'un projecteur normal. Hein. Donc,
10 fois plus cher.
Ah, c'est pas la même échelle de prix, oui.
La programmation du club cinéma, vous la faites tout à fait indépendante, vous en discutez ensemble, parce qu'il y a quand même là dans la programmation...
Ah ben bah on se parle, comme vous avez pu voir, on se parle.
Non mais parce qu'il y a des films, Les Places d'Agnès par exemple, c'est un film récent, c'est un film dont on a beaucoup parlé, c'est apparemment, d'après les critiques, c'est un film de grande qualité, et donc c'est... Le club cinéma, mais c'est également là, je dirais que c'est
il propose avec un oui, il propose là. Avec un pourcentage de demandes lors du...
On fait un conseil, voilà. On essaye de se mettre d'accord, je lui envoie une liste donc des films qu'on a retenus, un petit peu plus que ce qu'il nous faut parce qu'il y a des fois des contraintes de date, de distributeur, la copie n'est pas toujours libre. Bon, alors on lui envoie une liste, par exemple là j'ai dû vous envoyer une liste de 9 films pour 6 cases horaires à remplir.
Voilà, c'est 6 sur 9.
Ah oui, non, mais là, je ne l'ai pas envoyé l'autre. Hein.
Non, mais...
C'est pas dans la liste.
Oui, mais bon.
Et Louise Michel prendre, hein.
Oui, c'est ça.
Oui, Louise Michel en plus, mais ça, c'est lui qui va le passer. Mais il va le passer en même temps qu'on passera ses raffines. Donc ça fera une semaine, Yolande Moreau.
Ce que je veux dire, c'est qu'un film comme Les Plages d'Agnès, vous auriez pu aussi bien, vous, le passer en tant que...
Non, honnêtement, j'aurais pu, tout à fait. Ah oui, tous les films, j'aurais pu. Mais il y en a, à part Séraphine et puis Louise Michel, je pense que les autres, je ne les aurais pas pris parce que j'ai pas eu assez de demandes. Donc voilà. Moi, après, si j'ai des demandes, des films qui correspondent à l'esprit du club cinéma, je vais leur dire, bah, celui-ci, vous pouvez peut-être le proposer, ça peut être des idées. Puis, bon, bah, y a
oui,
des
parce
fois,
qu'on
y a
échange,
feedback,
on se voit pratiquement toutes les semaines.
Voilà. C'est le sentiment qu'on a, hein, donc, c'est le sentiment qu'on a, qu'il y a une symbiose quand même.
Quand même, oui. Ah, bah, c'est beaucoup plus la tête, mais on s'aime bien.
Mais il y a beaucoup de distributeurs en France.
Oui. Ah bah. Il y a des gros, il y a des tout petits. Il y a des gros qui sortent un film par semaine. C'est-à-dire des Gaumont, des Warner, des Paramount, des gens comme ça. Et puis il y a des distributeurs, il y en a peut-être 50-60 distributeurs, il y en a qui en sortent un film par an. Alors
ah oui,
aussi, ça va dépendre du nombre de copies.
Toute petite maison.
Toute petite maison.
Ah bah oui.
Et ils survivent.
Bah oui, pourquoi.
Mais il y en a qui plongent et puis il y en a d'autres qui apparaissent. Ça n'arrête pas. C'est très difficile de tenir à jour un agenda avec les distributeurs dessus, parce que ça change quand même.
Ils changent de nom.
Sauf les gros. Les gros, ouais. Gros.
Et encore, parce qu'il y en a qui changent aussi. Qui changent de nom.
Et puis, de temps en temps, ils se vendent. Ils se vendent. Oui, ils se vendent des portefeuilles entiers.
Ah oui, voilà.
C'est-à-dire tout un bloc. Vous téléphonez à une maison, vous dites j'aimerais avoir une copie de ça, c'est pour un festival, gna gna gna. Et de temps en temps, on s'entendait répondre « Ah oui, mais ça, c'est machin, c'est parti, on a vendu. » Alors, on a vendu tout le portefeuille. Et alors, des fois, quand ils sont bien unis, ils vous donnent le numéro où vous pouvez appeler, ou le nom exact. Bon, et des fois, c'est « Débrouillez-vous. Oui. » Voilà. Mais en passant par CNC, on finit toujours par ça.
Un jour, un bouquet rôle de l'INA.
Aucun.
Aucun ?
Non. Moi, c'est le CNC. L'INA, c'est plutôt la télé, justement, CNC. Centre National de la Cinématographie. Oui. C'est directement établi.
Il n'aime pas le cinéma. Moi, je vais vous dire une chose, il n'aime pas le cinéma.
Ah, l'INA, il n'aime pas le cinéma.
Ah ben, on voulait projeter en parallèle, on avait un film qui avait donné lieu à un téléfilm, il y a longtemps. Donc, on s'était dit, tiens, pour changer un peu, si on pouvait projeter le téléfilm et le film, pour que les gens puissent comparer. Donc on démarche auprès de l'INA. Quand ils ont appris que c'était pour un festival de cinéma, on s'est entendu répondre que ça ne les intéressait pas du tout. Que si on ne faisait pas quelque chose pour la promotion de la télévision, ils ne voyaient pas pourquoi ils feraient un effort pour nous prêter quelque chose. Donc même en payant, on n'a rien eu. Ils ont dit, vous devriez faire comme à Reims. À Reims, ils font un festival, il y a du cinéma, mais il y a de la télévision. Alors là, au moins, c'est des gens sérieux. Voilà. Et paf. Alors l'INA...
Cinéma et télévision.
Non, c'est eux, c'est télévision, ouais, télévision.
Télévision.
D'abord.
Mais c'est parce que essentiellement, l'INA.
La phrase exacte du gars que j'ai eu au bout du fil, parce que ça m'a un peu énervé, j'ai téléphoné quand même. Alors là, j'ai eu un type un peu au-dessus, parce que l'assistante commençait à en avoir marre de me voir, de m'entendre, et parce que je peux être ténueux au téléphone. Et le gars m'a dit, Nous ne sommes pas là, textuellement, nous ne sommes pas là pour servir de marchepied au cinéma, monsieur.
Oh.
Là, et il la raconte.
Le chef, là, quel est ça ?
Le classement des archives, c'est aussi un centre pour la protection. C'est-à-dire qu'ils ont aussi ils servent à la conservation, à la remise en état, ce genre de choses quand même aussi.
Ils sont un petit peu comme la Bibliothèque nationale pour le papier.
Y compris de films, alors.
Non, non.
Non, tout ce qui est archives, c'est propre au cinéma.
Oui, c'est ça. Centre national de la cinématographie. Non, ça n'a rien à voir.
Ah non, ils
n'ont
pas la même mission. Ils aident un cinéma vivant, ils aident des gens qui font vraiment du cinéma. Ce n'est pas des conservateurs, ce n'est pas des bibliothécaires.
Ils aident et ils contrôlent. Et contrôle beaucoup.
Oui,
c'est-à-dire que moi, commission de contrôle, moi je donne une partie de ce que des recettes aussi au CNC qui fait la répartition maintenant vers les distributeurs, c'est eux qui gèrent. Ils gèrent vraiment l'argent, les recettes du cinéma, tous les droits. Les droits cinéma, les recettes cinéma, le contrôle, parce que je dépends direct par le CNC directement du ministère de la Culture, c'est eux qui gèrent.
Oui,
j'ai des contrôles, j'ai eu un contrôle des inspecteurs du CNC. Qui venaient voir.
C'est un organisme de parapublic en somme.
Non, c'est complètement gouvernemental. Hein.
Ah, c'est pas
c'est
para.
Non, non, moi je dépends directement de Catherine, c'est là, qui est la CRC, et la ministre. Moi, tous les ans, je vais à la Fédération nationale des cinémas français pour un congrès. Elle n'a pas pu venir, mais d'habitude, le ministre de la Culture vient toujours pour rassurer les exploitants.
Ah oui.
Christine Banel, c'est
Ah bah si vous l'appelez Christine, bon.
C'est Christine entre nous.
Ah, il y a
de l'activité,
là.
Ah oui, je vous marre. Bon, t'avais pas parlé d'un aberritif ?
Oui, je crois que...
Moi, je voulais poser une question.
Je croyais que les questions étaient au dessert, mais
non. Non, mais
merci,
il n'y a pas de rapport entre cinéma et télévision, mais par rapport au cinéma, est-ce que l'impact des critiques est important dans la fréquentation.
Ouais.
Oui. Mmh. Mais je pense par exemple à un film comme Agathe Cléry où les critiques étaient très bonnes et il y a eu beaucoup
après
de
critiques. Après, la meilleure critique, c'est Bouche à Oreille. Hein.
Oui.
C'est celui qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, le bouche à oreille, la nôtre, voir les gens aller voir un film. Pour les ch'tis, c'est par exemple, voir à chaque fois que la salle était complète, ça fait encore plus à les gens voir les. Quand vous voyez un restaurant qui est toujours complet,
oui,
vous avez envie d'y aller.
Il y a un convive.
Voilà. Et donc, les ch'tis, vous voyez complet, vous voulez vraiment voir les ch'tis. Après, le bouche à oreille, c'est la meilleure. C'est ce qui fait la durée du film. Un film, la durée, c'est le bouche à oreille. Hein.
Oui.
Les critiques, dans une certaine mesure, bon.
Mais le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups, la critique. La critique ne marche pas à tous les coups. Il y a des fois, il y a des films qui sont portés par la critique.
C'est subjectif, la critique, quand même.
Et puis l'autre fois, il y a de très bonnes critiques partout, et le film n'arrive pas à décoller.
Il
n'y
a pas
de critique,
il y a des aigris aussi.
Quand tu dis que la critique partout, c'est dans la presse écrite.
Oui, surtout.
Ah bah c'est principalement la presse écrite.
Parce que nous autres, comme on a dit. La télévision, on revient dans la promotion.
Ah bah non, là, il n'y a pas de critique.
Non, non, non,
c'est pas la peine d'en parler.
Non, non. On peut dire à la télévision que ça se passe toujours de la même manière. Il y a le réalisateur, deux stars, deux acteurs qui sont invités. Il y a la bande-annonce, ils parlent du film, c'est très bien. Allez, merci, au revoir.
Et avec la bande-annonce, c'est un film qui va
la radio,
la bande-annonce, elle revient sans cesse.
Et alors, dans la manipulation, c'est vraiment des vrais
critiques. La promotion.
C'est de la promotion, oui.
Les gens ont plus confiance dans les critiques radio, bien sûr, parce que c'est des vrais critiques.
Oui, c'est des vrais critiques.
C'est comme la presse écrite.
Oui, voilà, oui.
Le bouche à oreille.
Sur la
c'est fou, l'imprimé.
L'imprimé, c'est du copier-coller, c'est du Word. Je fais un copier-coller, je fais, faut que ça soit, merci, faut que ça soit concis, alors je fais des coupes franches quand c'est trop long, je fais un copier-coller de là, je vais sur 2-3 sites, je regarde celui qui est le mieux, je prends un copier-coller, je mets, puis voilà.
Ouais.
Non, c'est pas moi, c'est les critiques,
c'est
oui, oui.
Ah bah, il faut bien quand même justifier son salaire mirobolant, les jetons de présence, le parachute doré, les bonus.
Au moins,
est-ce que vous êtes sensibilisé par la crise là au cinéma?
Oui. Comme j'ai dit, le problème, c'est en 2008, c'est que je comparais le plus gros film qui avait marché il y a 10 ans, c'était Titanic. Titanic, ça avait été en plus, ça avait été la cerise sur le gâteau. 20 millions d'entrées en plus. Cette année, c'est... Il y a eu 20 millions d'entrées, mais c'était pas en plus. Donc il y a un problème.
Ça a servi à boucher le trou parce que voilà. Sinon il y aurait eu moins d'entrées en 2008 qu'en 2007.
Mais là, d'où le danger, moi, je pourrais en parler pendant des heures, pour moi c'est le téléchargement.
Ah oui, ça, on en parlera tout à l'heure, ça. Hein. On en parlera tout à l'heure.
Pour Internet, quelles sont les mesures actuellement qui sont prises ?
Pour le moment, la loi est passée. Il reste le décret d'application pour obliger les fournisseurs d'accès à interdire le téléchargement.
Décret passé.
Ah non, le décret n'est pas paru.
Décret pas paru, non.
Oui.
Non.
Donc
la loi, la première loi, il fallait protéger, il fallait que le signifier que les aussi bien la musique que les films étaient des œuvres intellectuelles, des propriétés intellectuelles. Après, à partir de ça, on peut interdire les gens de s'approprier sans donner d'argent. Et donc après, obliger les fournisseurs d'accès, ils le peuvent, à contrôler.
Ils n'ont pas envie de le faire.
Ben non. Il faut savoir que la France, c'est l'endroit où on télécharge le plus de films, parce que c'est l'endroit en France, la France par rapport à l'Europe, où la vitesse de connexion par rapport au prix, par rapport au coût, est la plus élevée ou plus
faible. Et le nombre de...
Il faut espérer. En Angleterre, ça a été fait. Ça a eu un succès de 80 à 85% de baisse de téléchargement.
Illégaux.
Oui, ils sont en train de passer pour la
dernière question,
donc ça,
puis
on
va
après, bien sûr.
Voilà.
Ah oui, ça avant le repas, là. Non, mais vas-y.
Non, c'est
une parallèle.
Oui.
Voilà, le DVD, en deux ans, moins 50% de ventes de DVD. Et le pire, c'est que, à la limite, pour le disque, je suis entièrement d'accord avec vous, il faut protéger aussi le disque, on peut. Ils attendent au moins, et il faudrait quand même attendre que ça soit sorti, pour qu'il y en ait qui le mettent, qui le ripent, et puis qu'ils puissent le diffuser sur. Tandis qu'en France, il y a même des films que les gens téléchargent qui ne sont même pas encore sortis.
Enfin. Même pas sortis.
Oui.
Par le Canada, il y a des.
Par Internet, vous avez accès à un tableau.
C'est la toile mondiale, hein, donc.
Ah oui, la toile.
C'est ce qu'on disait à la
C'est la mondialisation totale, oui.
Ce qui peut sauver quand même le cinéma, c'est que c'est pas la même chose de regarder un film sur son petit écran.
Dites-le aux jeunes, entre payer 0 euros puis regarder ça sur son écran et payer 8 euros, même 5. Il y a tout un problème à ce niveau-là, justement. Au congrès, il y a eu une journée entière sur justement le comportement des jeunes vis-à-vis des films. Il y a eu tout un.
Ceux qui vont faire la fréquentation demain.
Le prix du billet par rapport à une dizaine d'années en arrière.
Il a baissé.
Il a
objectivement baissé.
Il y a eu c'est un déplacement de leur argent. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, comme on disait au congrès, à mettre 1,50€ dans une sonnerie pour leur portable, ou acheter un jean à 200 ou 300 euros, et puis après ils vont dire que le cinéma pour 6 euros c'est trop cher. Il y a un déplacement.
C'est le loisir extérieur le moins cher, le cinéma.
Le spectacle vivant, c'est forcément plus cher.
Le spectacle extérieur, c'est moins cher.
Alors là, c'est pour ça qu'il faut les attirer, mais d'une autre façon, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment.
C'est-à-dire,
les jeunes, ils viennent pas tout seuls, ils viennent en bande. Donc, il faut attirer les bandes. Il faut créer un événementiel pour dire aux jeunes, venez ensemble. Ils ne viennent pas tout seuls. Les jeunes, les ados ne viennent pas tout seuls. Les gens, vous, moi, on peut aller voir un film. Eux, c'est une sortie.
Et en bande.
Voilà. Donc il faut attirer de notre façon.
Vous nous direz comment.
Vous avez des idées?
Oui, c'est pour ça qu'il s'est acheté un bouton.
Vous nous direz comment. Vous avez une idée du nombre de films qui sortent en France tous les temps en moyenne?
Je sais plus, non. Parce qu'il y en a à peu près. Disons non, parce que des fois il y en a 10 à 15 par semaine, donc et il en sort toutes les semaines. Mais après ça dépend, parce que justement on a un gros problème des exploitants aussi, c'est que tous les films, il y a des périodes très 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 creuses, donc personne ne veut sortir de gros films. Et donc, et puis la semaine, un mois après, vous allez avoir 5 films par jour, par semaine, vous ne savez plus où les mettre. Hein. Et après les distributeurs qui ont une force énorme, vous disent oui, vous me prenez ce film et en plus vous me le mettez à toutes les séances. Hein. Alors quand vous avez 4-5 nouveaux films, vous savez plus où les
mettre. L'année dernière, hein, il y a dû y avoir entre 260 et 280 sorties entre les étrangers et les Français.
Oui. Entre les étrangers et les Français.
Tout pays confondu. Ce qui est véritable, c'est que quand
ça
on
pas
loue Vichy, Vichy,
hein, donc, bah,
pour
possible.
Le revoir, il ben, faut aller à Paris. Quelquefois,
s'il n'a pas marché, oui. S'il n'a pas marché, et puis que moi j'ai 5 films qui attendent derrière la semaine suivante, et puis il faut que je rentre.
Là, personne
moi, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand il y en a 4 qui rentrent, en moyenne, il faut qu'il y en ait 4 qui sortent. C'est ceux qui fonctionnent le moins. Mais ça, ne sont pas sensibles. Comment ? Bon, en moyenne, c'est une quinzaine de jours, mais après les clubs cinéma, c'est sûrement une semaine. C'est un film, le minimum, c'est 15 jours. Après, moi, s'il marche, je veux bien garder 3 mois. Hein.
Mais vous êtes obligé de bousculer votre programmation à ce moment-là, non ?
Non, après on s'arrange, voilà quoi, il va passer de moins en moins, on adapte. C'est ça le jeu, c'est de, quand vous avez 13 films. Il y en a 4 qui sortent, vous êtes obligé, ou 3 qui sortent, vous les mettez dans les 3 salles, et puis après il vous en reste 9 à mettre dans les 4 autres, 3 ou 4 autres, et bien vous êtes obligé d'adapter, de mettre tel film avec tel film, parce qu'il s'adapte, parce que c'est pas aux mêmes horaires, ceci, cela.
Le propriétaire des salles, là, c'est qui
Le propriétaire des murs, c'est le groupe Altarea, non, c'est le gestionnaire, c'est le centre commercial, après le fond, c'est une location par touche.
C'est Partouche. C'est Partouche en nom. Et qui a combien de salles? Il a beaucoup de remblaises comme ça, Partouche?
Non, c'est le seul.
Ah, c'est le seul? C'est une singularité ici.
Le groupe Partouche n'a pas d'autre salle de cinéma en France?
Si, une par-ci, par-là, avec des casinos, parce que les casinos sont obligés d'avoir d'autres activités. Ils sont casinotiers, mais c'est le seul multiplex qu'ils ont.
Sinon, j'aurais une salle comme ça, une salle traditionnelle.
Oui, par-ci, par-là, je ne sais plus où, d'avoir un 3-4, comme ça. Oui.
Attaché au casino.
Oui.
Dans des casinos traditionnels.
Et ils n'en sont pas contents parce que ça perd de l'argent.
Moi, j'ai un voisin qui avait Val André, c'est ça, il a une salle de cinéma.
Un casino, c'est obligé ils sont obligés d'avoir plusieurs autres activités à côté.
Les salles de cinéma.
Oui, pas forcément. Un bar, hôtel.
Oui, voilà.
Bah, tous les ans, M. Partouche pleure que ça lui coûte de l'argent.
Mais vous avez à l'intérieur d'une journée des horaires.
Oui.
Est-ce que vous avez fait une analyse pour savoir quels étaient les horaires les plus fréquentés?
Je fais toutes les semaines. Hein. Je fais ma programmation de lundi matin pour essayer de mettre avec, justement, parce que je disais, si j'ai deux films dans la même salle, je vais essayer de mettre, si je suis obligé de mettre deux films dans la même salle, s'il n'y avait qu'une séance dans la semaine, ça serait la séance du dimanche à 16h. C'est elle où il y a le plus de monde. Après, le samedi soir. Mais après, le but de la manœuvre, quand vous avez deux ou trois films à mettre dans la même salle, c'est d'essayer de les adapter. Mettre un film pour les enfants avec un film pour, disons, les gens un peu plus âgés ou les adultes, parce que vous n'allez pas le mettre aux mêmes horaires. Hein.
Par exemple, les séances du dimanche matin, qui n'existaient pas au début, vous les mettez
C'est moi qui vous la mettre, celle-ci. Parce que c'est une séance un petit peu moins chère, donc je me suis dit, si les gens qui ont 2-3 enfants ne peuvent pas venir trop souvent, et bien dimanche matin, je crée cette séance et je la mets à 5,50€ pour tout le monde, comme ça ils pourront venir. Ça dépend des films, c'est aussi entre des gros dimanches, ça peut aller jusqu'à 200-250 quand même, et autrement c'est une moyenne de, disons, quand on petit, 90-100 personnes quand même.